France Inter. Pour ne pas mourir de cynisme politique ou des krachs boursiers, il nous reste à l'heure actuelle à interroger et à réévaluer la mémoire culturelle des faits, notamment religieux, de notre continent. De cette mémoire, nous nous en sommes écartés quand nous avons coupé le fil de la tradition pour ouvrir les chemins de la liberté. Julia Kristeva est ce soir notre invitée à l'occasion d'une double actualité, son dialogue avec Marie-Rose Moreau intitulé « Grandir, c'est croire » et puis son Dostoïevski dans les collections « Les auteurs de ma vie ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera Dinah Washington.
Say you're lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. 'Cause I cried a river over you. Say you're sorry for being so untrue. So what? Just cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. Say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you.
Qu'avez-vous éprouvé comme sensation, Julia Kristeva, quand un soir, à Sofia, quand vous étiez petite et que vous étiez dans une rue avec votre mère et votre sœur, vous avez entendu par les haut-parleurs un ordre de la tutelle politique disant que le chef du parti agricole devait être exécuté et qu'il fallait se tenir prêt?
Sur le coup, je crois qu'on s'est mis à courir. Ma petite sœur qui était dans la poussette est tombée. On l'a attrapée, on a couru chez grand-mère et on s'est barricadé. Je pense que c'était l'effroi, l'angoisse. Autour de mes parents, qui n'étaient pas des dissidents ou de révoltés, mais qui se tenaient à l'écart du système. Mon père avait fait des études de théologie avant sa médecine. Il travaillait dans l'église pour que ses enfants restent à Sofia et fassent de bonnes études plutôt que de partir à la campagne. Maman avait fait des études de psychologie, de biologie, était darwinienne. Et ils se disputaient à table et moi je prenais son parti à elle. On était contre la religion de mon père, mais on entendait beaucoup des histoires de persécution, de camps, etc. J'étais divisée entre cette rumeur et l'enseignement qu'on nous donnait. La jeunesse communiste et les projets de nouveau monde, de l'homme nouveau. Petit à petit, en écoutant la mémoire des Arméniens, par exemple, du génocide arménien. Ensuite, quand on a commencé à parler de la Shoah, cette mémoire du monsieur qui était tué et que tout le monde devait se tenir prêt me revenait en esprit. Vous savez, je fais un séminaire sur le besoin de croire à la maison des adolescents. On a parlé de ces migrants aujourd'hui, de la violence, des conflits religieux, des massacres partout. Je me suis dit, à partir de cette histoire-là, s'est ancré en moi l'idée que le meurtre fait partie de la condition humaine, que ça peut arriver. Et comme le dira Freud, il l'avait dit, mais je l'aurais trouvé, la société est fondée sur un meurtre commis en commun. L'essentiel est, et c'est le message freudien aussi, qu'on peut survivre. Comment survivre à cela? Et c'était aussi l'éducation que j'ai reçue. Mon père disait, il faut sortir les enfants de cet intestin de l'enfer. Et il y a une seule façon, c'est de leur apprendre les langues étrangères. Il y a du meurtre, il y a de la violence, mais on peut s'en sortir. Et c'est un enseignement de la survie.
Pourquoi vous aviez peur de mettre la tête sous l'eau quand vous alliez au bord de la mer quand vous étiez petite?
Mais peut-être aussi parce qu'on entendait que les dissidents, on les noyait dans des baignoires. Il y avait des histoires comme ça. Peut-être, par ailleurs, tout enfant a besoin d'être soutenu par la mère, mais d'être aussi, elle a peur d'être noyée par la mère. Il faut voir ça aussi du côté un peu freudo-comique. Mais j'ai vite appris à nager.
Pourquoi n'avez-vous pas été dans cette institution où vous avez commencé à être éduquée, qui étaient des petites sœurs oblationnistes françaises en Bulgarie, à Sofia?
Mais vous savez tout, décidément, alors vous êtes adorable.
Ben oui, je suis votre espionne, figurez-vous. Vous qui êtes accusée d'espionnage,
oui,
les rôles sont inversés
ce
soir.
Ça dégonfler cette histoire. Non, ils m'ont inscrit dans cette école maternelle, justement, je suppose, pour suivre cette idée de mon père, que la seule façon de sortir de l'intestin de l'enfer, disait a-t-il, en prétendant que c'était une phrase qu'on trouve dans les évangiles ou la Bible. J'ai rien distingué de particulier allant dans ce sens, sinon dans la Divine Comédie où Dante met Judas quelque part dans l'intestin de l'enfer. Donc mon père voulait sortir de là et donc apprendre les langues étrangères. Il n'y avait pas d'autre manière, parce que le russe était notre deuxième langue, d'où mon Dostoïevski, on en parlera plus tard. Donc il m'a inscrite dans la maternelle des oblates, que je croyais moi dominicaine, mais c'est avéré que c'était des oblates. Donc on m'apprenait à faire les révérences, à réciter Victor Hugo, lire un peu de Colette, etc. Mais très vite, ces femmes ont été convaincues d'espionnage, ont été chassées de la Bulgarie. J'ai intégré l'Alliance française. J'ai suivi donc mon français en cours complémentaire avec l'enseignement habituel.
Vous vous destiniez à être astronome, pourquoi avez-vous abandonné?
Mais parce que dans ces conflits familiaux dont on parle et où je prenais le parti de ma mère était la biologiste et elle m'aidait beaucoup en maths. Il y avait à l'époque, peut-être ça continue aussi, des Olympiades en mathématiques. Je suis assez bonne dans ce domaine grâce à elle. Et quand je suis arrivée à l'âge du bac et ayant passé le bac, je pensais c'était le moment des Spoutniks et toute cette conquête de l'espace. Je voulais partir en Union soviétique dans une de ces villes secrètes où on apprend des choses concernant les planètes, le cosmos, la haute technologie. Mais mes parents n'étant pas membres du parti, ce n'était pas possible et je me suis consacrée au microcosme du langage.
Mais finalement, on peut dire que vous avez scruté, vous scrutez encore le ciel des idées. Donc vous n'avez pas vraiment abandonné.
Non, c'est une sorte de microscope à la place du télescope. Et aussi une enquête, si on veut en effet, intelligence service au niveau des phonèmes, des lexèmes, de la syntaxe et un peu plus bas aussi jusqu'aux pulsions, les vies sexuelles. Le microcosme freudien est une sorte, dit-il parfois, d'archéologie ou alors comme s'il était détective.
Voilà. Alors, vous semblez rigoler aujourd'hui de cette accusation d'espionnage qui vous est tombée dessus il y a maintenant 2 ans et demi.
Oui.
Vous avez tenu un journal qui a été publié dans la presse à partir du moment où vous avez appris cette nouvelle. D'ailleurs, cette nouvelle était tellement énorme que personne n'osait vous en parler. Vous étiez déjà en train de travailler sur cet ouvrage qui paraît ces jours-ci, Dostoïevski, et vous étiez bien plus préoccupé de comprendre les fulgurances de Dostoïevski que de pouvoir croire à l'incroyable. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il vous a fallu du temps, une espèce d'archéologie, de méthode de pensée pour détricoter cette histoire d'espionnage.
Mais écoutez, je l'ai toujours.
Et vous auriez pu croire que vous étiez une espionne finalement, puisque vous êtes une spécialiste de la croyance.
Mais c'était tellement incroyable que on commençait par rigoler. Alors Philippe et David me disaient, mais Sabina.
Alors Philippe, c'est Solaire, c'est David, c'est votre fils, enfant.
Voilà, et le grand enfant, il a 40 ans maintenant. Non, mais il se moque de moi parce que cette histoire est tellement invraisemblable que il n'y a personne pour le croire. Et la maison, ils me disaient, mais parce qu'il paraît qu'ils ont trouvé un dossier me concernant où je figure sous le prénom de Sabina. Ils me disaient que Sabina, c'est vraiment nul, il faudrait que ce soit Matahari, il faut que je leur suggère cela et que je fasse un roman là-dessus. Non, mais là où je commençais à ne plus rigoler, c'est quand on a découvert un deuxième dossier me concernant, qui n'est pas diffusé apparemment, et les journalistes qui ont eu le plaisir macabre de s'alourdir sur mon sort, n'ont pas parlé de ce deuxième dossier. C'est-à-dire 28 lettres personnelles envoyées par moi à mes parents, des lettres de la mère de Philippe et de ses sœurs à mes parents, qui étaient séquestrées et publiées par la police et qui se trouvent dans ce dossier.
Et comment l'avez-vous su, vous, chère Sabina ?
Mais parce que, quand ils ont ouvert ces dossiers, ils ont ouvert tous les dossiers et tout ça se trouve sur Internet. Donc la terre entière de l'Antarctique à je sais pas, en Afrique, peuvent connaître ce que je dis à papa et maman. Et ce sont pas du tout des lettres politiques. D'ailleurs, il n'y a aucune lettre politique, aucun texte politique dans mon dossier. Mais ce dossier-là m'a fait beaucoup de mal, vraiment. Je l'ai vécu comme un viol psychique et je ne sais toujours pas si ces lettres ont été extorquées avant d'arriver à mes parents, que mes parents n'ont jamais eu. Je parle des maladies de maman, de l'ulcère de papa, de la voisine, de mes angoisses à Paris comme toute nouvelle arrivante, nouvelle étrangère, etc. Ils sont allés, la police est allée chez eux et a perquisitionné chez mes lettres et les a pris de chez eux pour faire pression. Ils m'ont jamais parlé de ça, mes parents. Maintenant, ils sont décédés, donc je sais toujours pas quel est ce destin. Mais là, je trouvais ça extrêmement violent. Et évidemment, de la part de ces services communistes qui survivent, des débris du communisme, on va dire, qui survivent dans les pays européens de l'Est de l'Europe, parmi lesquels la Bulgarie, qui se blanchissent peut-être de leur propre implication dans le régime antérieur en essayant de purifier la mémoire et tombent sur des dossiers, parmi lesquels le mien. Peut-être ont-ils trouvé mon nom parce qu'il est plus célèbre que d'autres et que ça, c'était à l'époque où la Bulgarie est devenue présidente de l'Union européenne. Toujours est-il que la presse occidentale n'a pas parlé du tout de cette deuxième partie qui est cette surveillance faite sur moi et qui montre que le dossier en question n'est pas un dossier d'espion, mais un dossier de recrutement où ils essayaient de connaître qui je suis et de faire pression probablement sur mes parents.
Mais vous n'avez pas souvenir qui vous ait contacté ou qui est un bel étudiant un jour à l'université à Paris quand vous étiez vous-même étudiant à essayer de vous encercler. C'est arrivé à de nombreux intellectuels venus de l'Est.
Mais non, mais même c'est ça qui est kafkaïen parce que il n'y a pas de demande qui m'a été adressée d'être espionne. Vous savez, c'était le dossier date de 71, qui est l'époque où Philippe Solaire a créé le mouvement de juin 71, très maoïste. Et peut-être des camarades divers et variés ont cru qu'on passait du côté de la Chine et ça leur plaisait pas. D'ailleurs, le dossier me concernant finit par un verdict. Elle est nulle pour être espion, mais son mari est intéressant parce qu'il fréquente l'ambassade chinoise. Il y a, je me souviens en effet, il y a dans le dossier le signalement de 16 personnes du KGB bulgare qui sont venues me rencontrer, paraît-il. Peut-être c'était des étudiants, n'ont jamais posé de questions de faire quelque acte que ce soit et quelques communications utiles au gouvernement gouvernement, au service secret, que ce soit. Mais je me souviens d'un, parce que on a son rapport, qui m'a apporté avec des confitures de ma mère, des poèmes d'un poète bulgare que je connaissais pas. Et il paraît que je lui dis que c'est nul. Et il fait le rapport, elle déteste la poésie bulgare. Voilà le genre d'éléments qu'on trouve dans mon dossier.
Ben vous avez été l'objet de ce que de nombreuses personnes subissent aujourd'hui. C'est presque quelque chose de quotidien et de banal, c'est-à-dire la violation de l'intimité, la surexposition de son espace propre, à la fois psychique, moral, physique, qui est autorisé et même décuplé par les réseaux sociaux. Qu'avez-vous pensé de l'histoire Benjamin Griveaux?
Mais écoutez, dans un premier temps, moi je pensais qu'on pourrait non seulement se révolter, mais faire un acte juridique du fait d'exploitation de la vie privée. Ces lettres ne sont pas destinées à être privées. Et je suis fâchée avec le Nouvel Observateur parce que c'est eux qui ont ouvert cette enquête et n'ont pas réagi à l'existence de ces courriers et cette exhibition de la vie privée. Et mon avocat, Maître Fedida, m'a conseillé de laisser tomber, ne pas faire de procès pour l'instant, pour ne pas envenimer les choses et parce que ça demande de passer par la Cour internationale, par les cours de Bulgarie, etc. etc. Mais la question n'est pas résolue. Peut-être qu'on va arriver à cela.
Mais en quoi la morale, la justice et la politique doivent-elles interférer à ce point? En quoi Benjamin Griveaux était-il répréhensible?
Non, moi, je parle de moi pour l'instant. En effet, pour ce qui est de Geneviève Griveaux aussi. Bon, sauf que dans son cas, il est lié à un mouvement politique, il est en campagne qui n'a pas beaucoup marché, donc il y a beaucoup de phénomènes qui font que l'affaire était résolue de la manière qu'on connaît, il s'est retiré. Moi, ça me fait penser plutôt, vous savez, cette histoire Pavlensky me fait penser au nihiliste russe, on arrive à Dostoïevski. Il y a des personnages dans Les Démons qui est l'exemple même du nihilisme et qui Chigalov et qui promet une vie qui va être libre mais à condition que tout le monde soit égal et tout le monde soit espionné, qu'on crève les yeux de Platon, qu'on empoisonne Shakespeare, etc. Il y a tout un combat contre tout ce qui dépasse. Et qu'est-ce qu'ils font pour donner le signal pour le grand soir, la grande révolution nihiliste, il tue un des leurs. On fait une victime expiatoire pour se montrer contraire au système. Et on a vu une espèce de, sans qu'il y ait de correspondance terme à terme, dans ce groupe entre Pavlensky, son ami et leur avocat, une sorte de nihilisme révolté qui veut casser le système et qui commence par un meurtre expiatoire. C'est quelque chose d'extrêmement terrible, mais qu'un génie comme Dostoïevski a pressenti comme possible dans cette culture européenne. Qui cherche sa liberté de manière très risquée et qui peut valider des actes de terrorisme sans tenir compte de la valeur de l'individu.
Ben vous avez raison de situer l'horizon de votre pensée dans une perspective littéraire, historique et philosophique. Et votre livre qui vient de sortir sur Dostoïevski est un véritable chant d'amour. Il est tout sauf manichéen. C'est difficile d'ailleurs de dire où est le bien et le mal dans l'œuvre de Dostoïevski. Je vous propose d'écouter une archive d'André Gide qui va parler de Dostoïevski. C'est une archivina du 14 novembre 1949. C'était au micro de Jean Amrouche.
Je crois que j'étais assez sensible à ce caractère prophétique, mais à vrai dire, ce n'était pas celui qui m'intéressait le plus. D'ailleurs, sensible à ce côté prophétique, oui, si vous voulez, mais il fallait les événements historiques qui suivirent pour nous montrer à quel point Dostoïevski avait été une sorte de visionnaire de la réalité profonde.
Nous venons d'entendre André Gide, qui était un fervent admirateur de Dostoïevski, et vous, tout vous menait vers Dostoïevski, depuis la haute enfance, vous l'avez raconté, l'éducation contradictoire entre votre père et votre mère, la coupure à l'intérieur de ce que ça veut dire croire, la non-possibilité d'épouser une seule croyance ou pas de croyance du tout, bref, vous étiez faite pour Dostoïevski, et dans ce livre magnifique, vraiment, vous vous nous invitez à revisiter Dostoïevski, non pas forcément d'une manière psychanalytique, mais d'une manière presque pour comprendre nos existences aujourd'hui. À un moment, vous parlez de la fameuse figure des sous-sols à l'intérieur de Dostoïevski, du dédoublement, voire du détriplement de personnalité, et vous dites qu'en lisant Dostoïevski, on s'aperçoit qu'on est double, ça c'est sûr, mais peut-être pire que double, et que les sous-sols sont à l'intérieur de nous.
C'est un personnage absolument fascinant, Dostoïevski. Je dis personnage parce que c'est évidemment un grand auteur, mais il dissémine sa personne dans tous les personnages et par conséquent, on le reçoit comme une polyphonie. Une polyphonie, vous vous laissez transcender, vous planez avec elle, avec lui en l'occurrence, avec cette pluralité des facettes qu'il exhibe de la profondeur humaine, où vous vous laissez envahir et engloutir. Et je dois dire que moi j'ai éprouvé les deux, parce que j'ai commencé en effet à le lire en Bulgarie, mais mon père qui était un grand amateur de Dostoïevski l'avait caché au dernier rayon du dernier étage de la bibliothèque. Et on les a découverts, les livres de Dostoïevski, à côté de ceux de Freud, quand on a vidé l'appartement.
Donc il me... Ce n'est pas pour rien que vous êtes devenue psychanalyste,
Julia. Voilà, je cherche constamment. Mais vous allez voir que le parricide est en cours aussi, parce qu'il me disait qu'il ne faut surtout pas lire ces textes-là, c'est trop compliqué, c'est trop visqueux, c'est trop immoral. Toi, tu es faite pour la langue française et la clarté. Et donc, évidemment, pour la énième fois, j'ai désobéi, donc je suis allée prendre les textes de Dostoïevski et évidemment j'ai été à la fois fascinée et complètement désarçonnée, déséquilibrée. J'ai vite arrêté pour aller chez la clarté française de La Fontaine et Victor Hugo éventuellement. Mais je suis arrivée en France avec un grand savant russe post-formaliste, Bartine, qui avait découvert Dostoïevski, et c'était ma première participation au post-structuralisme français, dont on dit que j'étais une des créatrices, parce que en étudiant Dostoïevski, Bartine, qui est l'auteur dont je parle, a découvert justement cette polyphonie de Dostoïevski. Et comme vous le disiez tout à l'heure, non seulement une pluralité de voix à travers tous ces personnages qui expriment sa conflictualité à lui, mais surtout un mélange de tragédie et de comédie, de drame, de tragique et de carnaval. Et c'est, sans entrer trop dans les détails aujourd'hui, mais on comprend avec Dostoïevski que le roman s'enracine dans le carnaval, qui est cette œuvre humaine qui, au Moyen-Âge, s'est constituée sur les parvis de l'Église. Et c'est cette coexistence conflictuelle, mais en même temps cohabitation du carnaval et de la religion que Dostoïevski déploie dans la langue magnifique de son œuvre, qui est bien sûr traduit dans toutes les langues. Je l'ai dit dans ma préface.
Oui, y compris en chinois, dans d'innombrables traductions.
16 traductions de Dostoïevski en chinois. Déjà, Dostoïevski, c'est du chinois. Souvent, c'est tellement compliqué, mais traduit en chinois, on peut imaginer ce que c'est. Mais la meilleure traduction, et c'est celle-ci que je m'appuie, parce que le livre dont vous parlez, c'est d'un auteur de ma vie, un des auteurs de ma vie, mais c'est l'intitulé de la série, des éditions Buchet-Chastel, et c'est une introduction de 70 pages, je crois, mais qui est suivie par une anthologie dans la traduction de André Markovitch, qui donne à la voix de Dostoïevski sa chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots. On communique avec des mots, on les interconnecte, mais on perd la chair des mots. Et la traduction de Dostoïevski par Markovitch donne ce souffle, mais pré-proustien, à la fois il en meurt, il est étouffé, il est au bord de la crise épileptique, et il rit, il s'éclate d'humour par rapport à ces monstres, ces démons qui l'entourent, et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, renvoie à une profondeur humaine qui est un inconscient des profondeurs, beaucoup plus que l'inconscient freudien. C'est pour ça qu'on parle en psychanalyse maintenant, non pas de refoulement, mais de clivage, car de l'autre côté du clivage, il y a des pulsions, des électricités, et tout ce que Dostoïevski a vécu dans ses crises épileptiques, dont il tient le carnet pendant qu'il écrit « Idiot par l'idiot » par exemple. Et c'est cette complexité de la vie humaine que nous transmet ce russe universel dans sa langue carnavalesque qu'il faut lire absolument dans la traduction de Markevitch.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Julia Kristeva, c'est les variations Goldberg par la jeune pianiste italienne Beatrice Rana. Je vous propose d'écouter André Markowitz qui a décidé un beau jour, c'était il y a une quinzaine d'années je crois, de tout traduire de Dostoïevski et qui effectivement y a passé ses jours et ses nuits. Nous l'écoutons.
Il y a trois aspects. Le premier, c'est l'oralité, c'est toujours quelqu'un qui parle. Non seulement c'est mettre en valeur le côté émotionnel, mais d'une façon beaucoup plus importante, mettre en valeur la mauvaise foi de la parole orale. C'est-à-dire que celui qui parle aussi pour taire quelque chose. Et c'est la première fois avec Dostoïevski que le récit du narrateur ne correspond pas avec la vérité du livre. Il faut écouter ce qui est eu. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que Dostoïevski n'obéit à aucune loi que les siennes, et qu'il répète quand il répète et il répète pas quand il répète, et que, de fait, on l'a toujours traduit en le rendant français, comme tout ce qu'on fait en France, on le rend français. Et puis encore une troisième chose, c'est que Dostoïevski écrit par répétition d'images, par construction d'images. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était, derrière le roman, trouver le poème. Et c'était ça, le sujet réel de cette intégrale, c'était ça. Et je me disais que la seule façon possible de faire comprendre ça, c'était qu'on oublie la traduction, qu'on parle plus de la traduction, c'est-à-dire de faire les œuvres complètes.
Et c'est ce qu'il a fait, André Markowitz, et c'est ce que vous reproduisez à la fin de votre ouvrage, Julia Kristeva. Ce qui est très impressionnant dans ce nouvel ouvrage sur Dostoïevski, et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la possibilité d'ouvrir un texte de Dostoïevski, c'est non pas que vous le rendez limpide, parce que vous êtes très honnête vis-à-vis de nous, vos lectrices et vos lecteurs, vous nous dites que quelquefois, il y a des impensés, il y a des contradictions. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que vous-même, on vous sent vaciller à l'intérieur de la lecture de Dostoïevski. On sent que ça vous fait ça vous rend de plus en plus instable. Et vous nous parlez aussi de fragments de vie, de la vie de Dostoïevski, pour éclairer la multiplicité des personnages, comme si Dostoïevski lui-même, qui avait d'ailleurs échappé à la peine de mort, Dostoïevski lui-même avait, entre guillemets, saupoudré chaque création de ses personnages d'un tout petit peu de lui-même.
Je ne pense pas, avec toute l'admiration que j'ai pour Markovitch, je ne pense pas que c'est un auteur de mauvaise foi. Je crois qu'il est écarté, disséminé dans une polyphonie personnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être parce qu'en effet, il a survécu à la mort. C'est quelqu'un qui avait épousé les idées européennes, qui était libre penseur, il s'était engagé dans un cercle révolutionnaire, Petrachevski, qui voulait la mort du roi, la libération des serfs, etc., sans avoir rien fait de particulier, mais il est condamné à mort. Et au moment où on devait le fusiller, il est déjà sur la plateforme avec les yeux bandés, arrive la grâce du roi, il part en Sibérie, et là il découvre, redécouvre le christianisme, et il essaye d'affronter ce monde du bagne, où il y a le peuple russe dans sa splendeur et dans son horreur. Et il construit une vision du monde et de soi-même qui est d'une complexité extraordinaire. Dans une lettre qu'il envoie à son frère au moment où il part en Sibérie, il dit qu'il a perdu sa tête, mais il n'a pas perdu, parce qu'il devait partir sa tête avec le fusil, mais comme s'il avait vécu cette mort, mais il lui reste toutes ses visions, tout son imaginaire, et il voit le soleil. Et il cite une phrase de Victor Hugo encore une fois, et il s'engage dans une écriture qui doit montrer la complexité, l'enfer des êtres humains, qui à la fois l'effraie, et en même temps, parce que il trouve un nouveau sol d'ancrage, la langue. Et c'est dans la langue, en l'explosant, qu'il va exprimer la survie. C'est un homme, un survivant du bagne, de l'humanité, de l'idiotie, et il trouve comme seul pays le langage. Mais du coup, ce langage, ce n'est pas une poésie. Encore une fois, un désaccord avec Markovitch, mais je crois qu'on parle de la même chose avec d'autres termes. Il n'y a, vous savez, quand il parle de la beauté, il dit que la beauté, c'est entre la Madone et Sodome. Madone et Sodome, et moi je dis que pour ça, il est très contemporain, parce qu'il y a les deux, mais il dit l'homme est assez, il s'est Mitya Karamazov, l'homme est assez large pour les contenir les deux, Madone et Sodome. Et je suis pas sûre que l'homme d'aujourd'hui, qui est à la fois dans Sodome et dans le Madone, est assez large. Il est en conflit, il préfère oublier, mais ces deux piliers de notre histoire religieuse, gréco-judéo-chrétienne, sont toujours là, et c'est à la fois une sublimation éthérée et céleste à travers les figures des femmes mères chez Dostoïevski, et de l'autre côté, l'enfer qui explose dans le sous-sol de chacun, mais qui le prend aux tripes. Et c'est ça qu'il arrive à traduire dans la phrase. Il y a des phrases de Dostoïevski qui durent des pages. Proust s'est inspiré un peu de ça, et parfois il est dans une hésitation, comme vous dites, moi je ne sais pas où j'en suis parce que je me laisse porter par ça, et je voudrais que le lecteur comprenne cette déstabilisation, mais lui-même ne sait pas ce qu'il pense. Il a de très très fortes méditations aussi sur ce qu'est la pensée quand elle jouxte la passion, quand elle jouxte l'indicible, et très souvent il allonge la phrase, il dit la même chose à son confrère, mais il y a plein de mots comme « je ne sais pas, peut-être, peut-être même, tout à fait certainement », qui montrent l'hésitation de la pensée qu'il assume pour transmettre le tremblement de l'âme, dirait le religieux qu'il est, ou de la psyché, dirait le psychanalyste. Et c'est ce trembler, cette immersion dans les bas-fonds de la vie psychique qui m'a intéressée. Et dans ce domaine, il y a deux éléments que je voudrais absolument vous dire, chère Laure, et peut-être le transmettre aux lecteurs qui n'ont pas eu le temps d'approfondir la lecture de Dostoïevski. Il y a deux sujets extrêmement contemporains, parce que ce grand russe est hyper moderne. C'est ce que j'appelle l'archipel du féminin. Il n'y a pas qu'une femme, il y a un archipel de femmes qui sont enfermées dans leur solitude. elle ne communique même pas avec elle-même, et encore moins avec les autres, mais elles sont des héroïnes, des passionnelles, et qui vivent dans une jouissance imprenable. Ça, c'est le rôle de la femme qui pousse aujourd'hui et qui veut défendre sa jouissance contre des espèces de balance ton porc que sont des violeurs. C'est le cas de Nastassia Philipovna. Mais non seulement elles sont victimes de ces violences, mais elles sont victimes de la mort elle-même. Le féminicide est un sujet de Dostoïevski, on n'en a pas parlé. La violence de la femme dans son refus de l'exploitation sexuelle et dans sa possibilité d'avoir une jouissance spirituelle, esthétique, solitaire elle-même, et aussi la mort à laquelle la condamne la société. Ça, c'est magnifique. Aussi bien elle que la douce ou la boiteuse dans les démons, ce sont des femmes qui sont abusées et qui vont mourir. Ça, c'est vraiment un thème qu'on n'a jamais. Gide n'est pas allé de ce côté-là. Il a vu le côté, on va dire, spirituel, existentialiste, le grand écrivain qui n'arrête pas la phrase qui le déborde, mais cet aspect du féminin est extrêmement nouveau à mettre en évidence. Et le deuxième point, pour montrer combien Dostoïevski a vu les démons en lui, il se déclarait pédophile. Ça, Gide le signale. Ses biographes trouvent qu'il a exagéré parce qu'il voulait choquer le bourgeois. D'autres pensent que c'est peut-être vrai. Moi, je suis d'avis qu'il a tellement intégré l'image du violeur comme limite de l'humain, tout est permis mais pas l'abus d'enfant, donc je vais faire du pédophile le démon par excellence. Il s'est tellement identifié à cette abjection ultime qu'il se baladait dans les salons pour dire « mais moi aussi ». Mais c'est la première fois que dans l'histoire de la littérature, il me semble que la pédophilie est montrée de l'intérieur et de l'extérieur. Avec une sorte justement de polyphonie dedans-dehors, il est le pédophile et il ne l'est pas, il condamne Stavrogin, qui est le pédophile de Matrecha, au suicide. Donc il y a une sorte de jugement moral, mais qui n'est pas de la moraline, parce que ce jugement passe par l'expérience de la passion. Et ce qui me permet de dire, vers la fin de mon livre, que j'ai découvert quelque chose qu'on ne dit pas. L'œuvre de Dostoïevski n'est pas une hymne à la souffrance, que c'est, parce qu'il pense que le grand apport de Jésus, c'est de nous apprendre à souffrir et de montrer comment la souffrance est coextensive à la pensée. Le grand apport, c'est la jouissance. De tout ça, de la souffrance, il dit « parlez-en et on peut en jouir ». Et il n'y a pas d'autre libération du péché, pour employer son langage, ou du meurtre, ou de la violence, que de pouvoir la transmettre dans une langue qui condamne et en même temps se met à la place de ce qui peut la guetter elle-même. Donc c'est très, très à l'encontre du moralisme d'aujourd'hui, tout en méconnaissant et en reconnaissant les crimes dont il s'agit. Et donc je dis, j'ai trouvé une lettre volée dans les pages de Dostoïevski, c'est que c'est un auteur de la jouissance. Et d'ailleurs, les frères Karamazov sont des grands jouisseurs, mais ils finissent en carnaval. Mais je vais vous laisser nous poser peut-être d'autres questions pour ne pas finir là-dessus.
Non, mais c'est formidable cette passion pour Dostoïevski que vous réanimez avec votre souffle, la grâce de votre écriture et avec votre possibilité de relecture et de compréhension d'aujourd'hui et de nécessité pour comprendre quelques contradictions de notre société aujourd'hui. Ben quelquefois, c'est pas forcément la lecture des journaux, mais ça peut être des grandes œuvres.
Mais je crois que devant les faces absurdes de l'humanité aujourd'hui, le viol des femmes, le viol d'enfants, il faut lire plutôt la littérature que de souscrire à des manifestes. Il y a des tribunes.
Alors, vous venez de prononcer un nom qui est celui de moraline, que vous avez emprunté au vocabulaire de Friedrich Nietzsche, qui détestait la moraline. Voilà. Nous sommes en pleine moralinisation. Que pensez-vous de tout cela? Nous avons l'impression que, quelquefois, dans des conflits dont on parle beaucoup dans l'opinion publique et aussi, évidemment, dans les journaux, dans les réseaux sociaux, chacun de nous, femme ou homme, serait autorisé
à édicter un jugement, à se prendre soi-même pour un tribunal personnel et à juger une personne qui n'aurait pas été poursuivie par la justice. Vous qui avez été élevé au lait, elle a été, de la liberté dans tous les sens du terme, la liberté non pas comme choix mais la liberté comme décision intellectuelle, morale et presque construction de sa propre personnalité. Que pensez-vous de tout cela ?
Il y a de très fortes pages sur la liberté dans Le Grand Inquisiteur, le passage de Grand Inquisiteur.
Ah, nous voilà repartis sur Dostoïevski.
Ah oui, non, mais parce que, je veux dire, si on répond à par oui ou par non, on se trompe quelque part. Et ces questions sont très fines. Donc l'idée, c'est que Dieu a donné la liberté aux hommes, paraît-il. En tout cas, dans le christianisme, on prétend cela. Mais la liberté est un risque. Et la liberté de condamner, quand on le fait, il faut reconnaître le risque que ça suppose, c'est-à-dire de blesser un sous-sol humain dans lequel se cachent des objections et des créativités. Donc, ça reste peut-être trop général et un autre vœu pieux d'analyse qui concerne le respect qu'on doit à la personne humaine. Mais pour être dans l'actualité, moi je crois que les femmes ont raison de dénoncer et ce qu'elles pensent être une horreur qu'ils ont subie et la souffrance que ça a provoqué en elles.
Et cette contagion de la parole qui permet de nous tenir debout et de continuer ce que je nomme une contagion de la liberté.
Mais il faut que ça parle. Mais le problème commence à partir du moment où la juridiction se mêle et qu'on condamne et qu'on stigmatise. Il y a des situations qui relèvent de la loi pour protéger l'enfance en particulier. Et je pense que la société du XXIe siècle est arrivée au point où l'enfant est un être protégé, ce qui n'était pas le cas. On le sait, les travaux le montrent. Donc, laissons passer la loi. Mais à partir de là, il faudrait entrer dans la construction de la personne qui a été abusée et ne pas se contenter de l'interdiction. On a un problème analogue maintenant avec le domaine du handicap. On découvre que Jean Vanier est passé à l'acte dans les cercles de personnes handicapées dont il s'occupait et qu'il protégeait.
Jean Vanier, qui était le fondateur de l'Arche, dont vous étiez proche, avec qui vous aviez fait un livre d'entretien.
Voilà, leur regard perce nos ombres et on me demande souvent qu'est-ce que j'en pense. Évidemment, ça a été surprise
plusieurs
pour
femmes,
nous tous.
Plusieurs femmes ont dit qu'elles avaient été abusées. Elle parle d'emprise.
Mais très bien qu'elle le dise, si elle sente ça, il faut que les voix s'entendent. Mais il faut aussi.
Ça ne vous a pas étonné?
Moi, ça ne m'a pas étonné, mais je ne vais pas relayer ici les raisons pour lesquelles ça ne m'a pas étonné. Par contre, je pense que dans ces situations, pour rester dans le concret et dans le social, et pas sur le divan, on entre dans le sous-sol, ni dans le roman qui explore le sous-sol. Et je ne vais pas me balader comme Dostoïevski pour dire dans les salons, je savais ce que Jean Vanier a fait ceci ou cela. Non, ce qu'il faut faire, c'est par exemple comprendre pourquoi un homme comme lui, qui n'était pas un saint, a été amené à ce genre de fait. Ouvrir sa biographie.
On va vous dire quand vous essayez de comprendre. Mais, un violeur.
Mais il faut que...
Là, on est dans le jugement.
Non, c'est pas dans...
On est dans une société de jugement.
Non, mais dans la société de jugement...
Il est mort.
De Jean Vanier,
donc
il ne s'agit pas
passer devant le tribunal.
Non, mais il s'agit pas. Si on parle de Jean Vanier, il ne s'agit pas de jugement. On ne le juge pas. On peut regretter ce qui s'est passé, on peut se plaindre, mais il n'y a pas de jugement qui consiste simplement à stigmatiser. Je crois qu'il faut le faire. Il faut montrer qu'on n'est pas content, qu'on accuse, mais il faut comprendre aussi pourquoi est-il venu à ce qu'il a fait de manière à prévenir que d'autres situations se produisent, que d'autres violeurs de ce type ou d'autres apparaissent.
Mais ce qui est intéressant, c'est que des femmes, bien longtemps après les faits, ont osé prendre la parole.
Mais ça, c'est
encouragé par d'autres.
Par la situation. Donc je crois, trouve qu'il faut à la fois condamner l'acte de Jean Vanier, approuver le courage de ces femmes et les comprendre, mais une fois la stigmatisation faite et les compréhensions faites, moi je suis toujours
avancer.
Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Voilà. Comprendre comment un homme comme Jean n'est pas un saint, mais un homme qui est arrivé à ces situations, et comment on arrive à être pédophile, c'est pas son cas, ou violeur de femmes, de manière à prévenir ça c'est la question de la sexualité masculine et du rapport entre l'homme et la femme. Et deuxième point extrêmement important, pour ce qui est de situation de milieu pour des personnes handicapées, quelle était l'incidence de ces phénomènes sur l'accompagnement des personnes handicapées? Comment aider le personnel soignant, ne pas sombrer dans la dépression qui le guette face à la misère de la personne handicapée ou de la difficulté extrême, parce que Jean Vanier s'occupait des gens dans une extrême difficulté, comment ne pas être en contagion avec cela et vouloir par une attitude maniaque, par exemple avec des relations sexuelles comme il a eu dans ces cas-là, se protéger de cette dépression. Donc tout l'accompagnement des personnes qui sont en contact avec la difficulté de vivre, comment l'organiser, comment la protéger, comment la développer. Ce sont des choses qui sont à l'ordre du jour.
Toujours est-il qu'on assiste à une autre vision du rapport sexuel, du rapport entre les sexes, du féminin et du masculin, dont nous ne pouvons que nous féliciter. Et en même temps, il y a beaucoup de difficultés à comprendre la contextualisation d'une époque d'il y a 40 ans, du début des années 70. Et ça prend... dans toutes les disciplines des sciences humaines, dont vous êtes une des princesses, Julia Kristeva, je veux parler notamment de la psychanalyse, et je veux parler d'une femme qui était extrêmement importante, à la fois théoriquement pour ses écrits, mais aussi pour son action et sa revisitation du statut de l'enfant. Il s'agit bien sûr de Françoise Dolto. Je vous propose d'écouter la voix de Dolto, puisque elle aussi, elle fait partie d'une sorte de révision de son œuvre, peut-être de réappropriation ou d'une autre relecture. Écoutez ce qu'elle disait au micro de France Inter, puisque à cette époque-là, elle travaillait à France Inter dans une émission quotidienne qui aidait beaucoup les parents qui avaient le droit de parler à Françoise Dolto.
Les adultes, nous prenons les choses comme si ça allait de soi, mais c'est que ça ne va pas de soi du tout. Et nous répondons très mal aux enfants. Et alors c'est très important que l'enfant comprenne que l'adulte... Ça a été pour moi un tournant de mon enfance, et je le cite, que l'enfant se rende compte que les adultes ne savent pas et qu'ils font avec cette interrogation qui n'a pas de réponse. Ils font avec. Et c'est ça la surprise de l'enfant. Comment ça se fait qu'il puisse vivre sans savoir ce qu'il y a après? Et puis il s'aperçoit au bout de 4-5 jours qu'il en fait autant. Il est aussi bête qu'eux. Je crois que c'est ça qui est un tournant dans la vie d'un enfant, quand il s'aperçoit de la faille qu'il y a dans le tout-savoir de l'adulte qui jusque-là était absolument impensable. Les parents savent tout. Hein. Ils sont tout sachants, ils sont tout puissants. Hein, voyez, ce tout puissant, ce tout sachant qu'est l'adulte, il faut absolument que l'enfant découvre que c'est pas vrai. Et c'est très dur de le découvrir, mais c'est indispensable pour qu'il puisse faire son chemin d'être humain.
C'est surtout ce dont on commençait à se poser des questions, c'est un certain déni ou méconnaissance de la part des analystes des abus de l'enfant, de l'inceste. Et là, je crois que il y a eu une position de Freud qui n'est pas aussi radicale que cela, mais certains se sont peut-être laissés prendre au fait que l'inceste que l'enfant a subi n'est qu'un fantasme de l'enfant et qu'il ne faut pas tenir compte de la réalité. Peut-être certains le pensent depuis longtemps, ce n'est pas mon cas et je connais beaucoup d'analystes pour lesquels le trauma existe. Et on travaille beaucoup sur l'inceste en tant qu'acte et on essaye d'aider et l'enfant et les parents.
C'est cela le plus important, c'est plutôt ça, que de faire des procès en révisionnisme idéologique.
Absolument.
Ou intellectuel.
Voilà, voilà. Mais je reviens sur ce que vous disiez sur le côté libertaire d'il y a plusieurs années et qui fait que beaucoup de gens ont signé des pétitions pour reconnaître le droit à la sexualité infantile, et dans cet esprit-là, on pouvait penser qu'il couvrait les actes pédophiles. Et c'est là que Dostoïevski est même en avance. Parce qu'il allait dans les tribunaux, et vous savez, si je ne le dis pas, personne ne le dira, parce qu'il faut lire aussi. Il allait dans les tribunaux parce qu'il avait des enfants qui étaient abusés. Et le père arrive et dit, mais c'est parce qu'il se masturbe. Et Dostoïevski écrit des pages et des pages contre l'abus en disant que l'enfant a droit à sa liberté sexuelle. C'est quelqu'un qui, tout en étant contre l'abuseur, essayait de sauver la particularité de la sexualité infantile qui lui crevait les yeux aussi, sans encourager des masturbations effrénées. Mais c'est pour montrer comment un écrivain comme lui pouvait se rendre compte de la complexité de la vie humaine et ne pas pencher d'un côté seulement ou de l'autre. Mais vous avez posé une autre question sur la contextualisation et le fait que les hommes et les femmes ont peut-être du mal aujourd'hui à vivre ensemble compte tenu du féminicide, de l'infanticide, etc. Il y a une phrase que Proust reprend. Les hommes et les deux sexes mourront chacun de son côté. Moi, j'essaye de penser en tant que psy, en tant que écrivain et lectrice, que ce n'est pas forcément une malédiction et que il peut y avoir des possibilités de se comprendre, d'analyser ce que nous voulons de part et d'autre et d'entrer dans les sous-sols des jouissances féminines et masculines, de manière à ce que il y ait une autre possibilité de vivre. N'empêche que, et c'est ce que j'ai dit à un récent colloque sur la sexualité féminine, le problème aujourd'hui, c'est l'hétérosexualité. Ça a été le problème et ce le sera tant qu'on n'a pas trouvé les impasses, mais aussi les accords possibles entre les deux jouissances féminines et masculines.
Merci beaucoup Julia Kristeva. Cette émission se termine. Je voudrais rappeler les deux titres que vous signez ces jours-ci. Dialogue avec Marie-Rose Moreau, merveilleuse personne, Grandir c'est croire, aux éditions Bayard, et puis Votre Dosto, Dostoïevski, dans la collection Les auteurs de ma vie, chez Buchet-Chastel.
Ici les petites Ralph Lauren, en Austin, longent la Seine, et nous font des signes. Là les capuches dandines, en galerie marchande, rêvant de grosses limousines allemandes. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, ici et là. Tu sautes le périph', oh, allez. Of the sheriff Bob Marley, ici et là. Ici gagne pour gagne, grimpe un homme su. Là l'escalator est en panne, on tourne dans la ZUP. Fantin la tour et de gars, allez va au musée. En bas de la tour y'a deux gars, allez va t'amuser. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, ici et là. Tu sautes le périph', oh, allez. I shot the sheriff, but my.
Et c'est avec Alain Souchon, ici et là, que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique ce soir. Merci à Anne-Sophie Dazard, Adrien Azéli, Elodie Royer et Maïlan Loaec. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.